Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 41e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier. J'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus ? Pourquoi ? Quoi, dans quel contexte et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone. C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'ils soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musical et technique. Durant les derniers épisodes sur la culture jamaïcaine, nous avons abordé la naissance du ska, puis du rocksteady, et le début du reggae et du dub. Aujourd'hui, nous allons voir comment cette culture a évolué à travers les années 70. Pour rappel, à la fin des années 60, le reggae et la culture rasta restent marginales et l'industrie de la musique sur l'île est au point mort. Les producteurs et distributeurs se tournent vers une autre île où un intérêt certain pour la musique jamaïcaine est né depuis quelques années, la Grande-Bretagne. Un artiste, un des premiers d'ailleurs à utiliser le terme reggae dans son titre Do the Reggae en 68, est Toots Hibbert et son groupe The Maytals qui, selon lui, est une référence au terme Rastafari pour « fait la bonne chose ». Il devient même populaire chez eux en Jamaïque et tourne avec les plus grands. 18 mois de prison pour possession de cannabis inspirera Toots pour sa chanson sûrement la plus connue, 5446, That's My Number.
Then you will get no hurt, mister. No, no, no. I said, yeah.
Pour les British, le reggae n'a qu'une attache superficielle à la Jamaïque. C'est devenu leur pop musique à eux, qui chante une nouvelle Grande-Bretagne multiculturelle, avec sa culture skinhead en vogue chez les classes pop. Une musique parfaite pour le Royaume-Uni, mais en Jamaïque, elle était ignorée. Une nouvelle musique émergeait des sound systems et un vent nouveau soufflait sur l'île. Une pauvreté aggravée par des récessions depuis la décolonisation, l'oppression coloniale avait été remplacée par la dépression économique. Les artistes mis en avant par l'industrie musicale de l'île ne reflètent plus les pauvres. Et les sound systems sont le lien le plus direct avec la population. Ils commencent à retirer les voix de vieux standards de rocksteady et les gens chantent en soirée dessus comme un karaoké. Le dub est né. We'll be right back. prochaine étape, les DJs. Pas ceux qui sont aux platines. En Jamaïque, ça, c'est le selector. Non, là, ce sont ceux qui ont le micro et qui réalisent qu'étant les hommes dans la lumière, avec ces instrumentales, ils peuvent faire plus que juste présenter le titre.
I've got a musical disc and I can't afford to be late. Like a plain musical disc with strings. It's cropping, so cropping like another Bama Robbie.
Et ça prend sur toute l'île. Les DJ parlent de la vie de tous les jours et la tournent en une sorte de poésie. Et en plus, ils parlaient en patois. La musique était connectée à son public, encore une fois. Avec son marché étranger, l'industrie musicale était l'un des derniers secteurs où il restait du travail. C'est devenu un aimant pour les gens venant de toute l'île. C'est l'histoire racontée dans The Harder They Come, un film jamaïcain post-colonial clé de 72, racontant l'histoire d'un jeune pauvre joué par Jimmy Cliff, propulsé au devant de la scène, allant à Kingston pour faire de la musique, un portrait remarquablement fidèle de la Jamaïque à l'aube des 70s. Ce film participe à la percée du reggae autour du monde, mais même sur l'île, il suscite un intérêt particulier. La critique de l'industrie musicale fait écho à la dynamique underground des quartiers populaires, en dehors des canaux établis et qui allaient prendre le pouvoir. Le dub était idéal pour les producteurs indépendants. Avec ses instrumentaux, ils pouvaient avoir des DJ, des groupes ou des chanteurs. Lee Scratch Perry a du succès au Royaume-Uni avec son collectif The Upsetters. Mais son vieil ami Bob Marley a du mal à percer. Il essaye de faire tourner son propre label depuis des années. En 69, ils font équipe. Les Upsetters sont la base des Wailers. Neville Livingston, qui deviendra Bonnie Wailer, et Winston Herbert McIntosh, ou Peter Tosh, ayant joué et appris dans le collectif.
Oh,
18 mois durant lesquels les Wailers ont travaillé avec Lee Perry les a changés, eux et la musique jamaïcaine pour toujours. Bob Marley se développe au-delà de ses influences de R&B américain et devient un vrai chanteur protestataire rasta. Sa musique met cette culture à la lumière. Pour rappel, le rastafarisme est une culture spirituelle née dans les années 30, prônant de regarder vers l'Afrique, terre des ancêtres, et particulièrement vers le roi éthiopien, Sa Majesté Empereur Haile Selassie. Après sa visite en Jamaïque en 66, le rastafarisme devient la voix de la conscience noire en Jamaïque. Les musiciens rasta chantaient la révolution pendant que la Jamaïque traversait des temps révolutionnaires. 10 ans d'incompétence des politiques de droite avaient mené la Jamaïque sur ses genoux. L'opposition était personnifiée par le jeune avocat Michael Manley. Son message socialiste prenant l'autosuffisance et l'indépendance par rapport aux États-Unis. Les musiciens commencent à le soutenir. Bob et Rita Marley, Dennis Brown ou encore Alton Ellis joignent son bus de campagne en 71. L'élection de Michael Manley se retrouve dans le film The Harder They Come et devient une histoire internationale. Ce qui nous ramène donc encore à ce film, dont la musique est en grande partie faite par Jimmy Cliff, mais d'autres artistes notables comme Desmond Dekker, The Ethiopians ou Frederick ou Toots Hibbert apparaissent dans la bande-son à faire exploser le reggae autour du monde. C'est Jimmy Cliff qui devient la première star internationale du reggae. Il est actif depuis les années ska et en 65, il part en Grande-Bretagne. Il est coaché par Island Records pour percer le marché international. Le reggae à l'époque, c'est un peu comme le R&B. Personne ne faisait d'album à proprement parler. C'était plus des compilations de chansons sans fil conducteur. Mais en 69, il sort son album intitulé Wonderful World, Beautiful People, considéré comme le premier vrai album jamaïcain. Marche pas. Puis vient cette opportunité de jouer dans ce film. L'année passée à tourner donne à Jimmy le temps de réfléchir sur sa carrière avec Island Records qui l'a poussé à devenir acteur. Il quitte le label, mais 2 mois après, Bob Marley pousse la porte. Les Wailers plaisent par leur côté contestataire et Island Records produit leur album. Catch a Fire est le premier album à être marketé comme les albums de rock. Une couverture originale garantie, cassée 20 minutes après l'avoir acheté, beaucoup de guitare lead et un vrai groupe. Leur album suivant aura même les paroles écrites à l'intérieur. Un gros clin d'œil aux cousins du rock. En Angleterre, le groupe explose. Les jeunes blancs libéraux de classe moyenne sont touchés par les paroles racontant l'oppression et la misère. Les hippies adoptent les dreads. Les gens sont attirés par l'image de dreadeux hors-la-loi fumeurs de joints des Wailers. Et quand le dieu de la guitare Eric Clapton reprend « I shot the sheriff », Marley ne regardera plus jamais derrière.
I shot the sheriff.
Le succès de Marley a sorti le Roots des frontières jamaïcaines et l'a fait connaître autour du monde. Les Mighty Diamonds, les Gladiators et Culture percent aussi en Angleterre pendant qu'une nouvelle génération de fans prennent en grippe des artistes avec des noms mystérieux comme I Jaman Levi, I Roy ou Prince Farai. Le langage des Rasta était maintenant à vendre à tous les coins de rue. Et encore une fois, les dreads font fureur.
You're tuned to Boss Radio, one in the land. With a temperature of 85 degrees Fahrenheit, kind of warm in Kingston today, baby. Yeah.
Now we've learned what curly locks is. What can you do more than love it?
Because it treat them love it, and then the data them a scrub it. The naughty dread them love it, and the sister them love it. Can naughty dread lock dread move ya down in the house of dread? And naughty dread lock dread come on down in the house of dread.
La culture Rasta est enfin respectée et reconnue pour ce qu'elle est. Une culture contestataire et d'espoir pour les Jamaïcains, avec sa musique qui est une façon unique de s'exprimer. Avec le roots et le rastafarisme qui se répand sur l'île, la Jamaïque commence à chanter à propos de son passé. C'était la redécouverte d'une culture populaire qui prenait racine en Afrique. Ils chantaient à propos de leurs ancêtres sur l'île, les Maroons, des esclaves échappés qui régnaient sur les collines, se battaient contre les Britanniques et avaient gardé leurs traditions et folklore africains. Au milieu des années 70, des tensions en ville montent, surtout entre partisans politiques de Michael Manley et son opposant Edward Seeger. Le premier, étant touché par des problèmes financiers et court-circuité par la CIA, doit se distancier de ses idées révolutionnaires. Les Rastas sont les premières victimes. On discrimine à cause des dreads après un discours de Manley à ce propos. Max Romeo, qui doit s'exiler aux États-Unis, où il vivra 18 ans après avoir chanté One Step Forward. Les gangs de Rude Boys des années 60 étaient devenus les bras armés des partis politiques. Être politique était dangereux pour les voix indépendantes comme les Rasta. Dans la course à l'élection de 76, la violence armée a escaladé en des batailles rangées de fusils et de pistolets dans les rues. Bob Marley décide de jouer un concert appelant les deux partis à baisser les armes. Personne n'écoutait. Bob se fait tirer dessus. Max Romeo dira de Bob Marley qu'il était courageux, bien plus courageux que Max ne l'est. C'est pour ça que Bob Marley est là où il est et Max Romeo est là où il est lui, c'est-à-dire vivant.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war.
Bob Marley joue son concert deux jours après la fusillade. Les deux le propulseront au rang de prophète aux yeux de ses fans autour du monde. Mais à Kingston, il sent que les choses deviennent trop chaudes et il quitte le pays au bout de deux semaines et ne reviendra pas avant 18 mois. Il emménage à Londres où il trouve une scène roots vigoureuse. Il y avait au sein des communautés noires une crise identitaire. Ils n'apprenaient pas leur histoire à l'école ou dans les médias, mais désormais, grâce à cette musique. L'année 77 voit tous ces groupes de roots jamaïcains avoir du succès au Royaume-Uni après qu'une nouvelle audience, les punks et la jeunesse contestataire, étaient nés. Mais ça, on va le garder pour plus tard.
They say them frame up George Lindo up in Bradford Town, but the Bradford Blacks them a rally round. Maggie Thatcher and they go with a racist show, but a she have to go. Cause right now, African, Asian, West Indian and Black British stand firm in England. In a this year time, yeah. For no matter what they say, come what may, we are here to stay in a England. This your time, yeah. George Lindo, him is a working man. George Lindo, him is a family man. George Lindo, him never do no wrong. George Lindo.
Le succès mondial du Roots a fait de Bob Marley le plus célèbre Jamaïcain de tous les temps. Et à son retour sur l'île en 78, il fait un miracle. Il arrive à réunir les deux opposants politiques Manley et Seeger et les fait se serrer la main sur scène, en public, après des années de conflits sanglants. Ils ne se sont plus jamais serré la main en public avant l'enterrement de Marley, 3 ans plus tard. Le message de Marley a répondu la voix des droits des Noirs autour du monde. Mais pour les Noirs britanniques, ça commençait déjà à être de l'histoire ancienne. Pour la plupart, elles n'ont plus ou même jamais eu d'attache avec les West Indies et ses cultures. Elles le sont concernées par ce qu'il se passe en Grande-Bretagne, pas à l'autre bout de l'ancien empire. Et elles commencent donc à créer leur propre son, un peu en revenant sur le modèle du rocksteady. Mais cette fois, ce sont les femmes qui sont au centre de la scène. C'est le Lovers Rock. Très vite, l'engouement gagne les jeunes femmes britanniques comme Louisa Marks ou Carole Thompson, mais aussi bien sûr les hommes. Le Royaume-Uni avait enfin quelque chose d'unique à apporter au reggae, devenant ainsi un aimant pour tous les artistes jamaïcains dont la carrière stagnait au pays, ceux qui voulaient faire de la soul music et qu'on traitait donc de vendus. À la fin des années 70, le Lover's Rock britannique devient une influence majeure sur les chanteurs jamaïcains. Dennis Brown en est un. Il a eu sa carrière sur l'île. Maintenant, il aura sa carrière dans la chanson d'amour sur l'autre île avec sa voix mielleuse et douce. Jamaïque durant les 70s. Son idéalisme a aidé le pays à se former une identité 10 ans après l'indépendance. Alors quand le Royaume-Uni lâche sa dernière colonie en Afrique en 80, les locaux voulaient entendre une seule voix. Bob Marley est enfin retourné en Afrique. Mais ce que peu de gens savaient, c'est que Marley était en train de mourir d'un cancer. Le Roots mourait avec lui. Et une nouvelle forme de musique naissait dans les dance halls de Kingston. Mais contrairement aux Roots, elle allait prendre d'assaut les États-Unis. Mais ça, on le verra plus tard. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui. C'est sur du Lover's Rock, Night Nurse de Gregory Isaacs que je vous laisse. Subculture, c'est tous les lundis 13h15 et 19h15, le samedi 11h et le dimanche 22h sur Radio FM+, fréquence 91 de la bande FM sur Montpellier et alentour. Ou via l'onglet Écoutez le direct du site radiofmplus.org ou même sur les applis Radio Line ou les radios associatives pour smartphone. Vous pouvez également en retrouver les épisodes précédents en podcast sur radiofmplus.org en écoute illimitée ou téléchargement gratos. Et moi je vous dis big up, my brothers and sisters.
Prescription for me. She's the one, the only one. remedy.
Night nurse.